de la semaine. Hein. 6 degrés à Clermont-Ferrand, 8 à Paris, 11 à Marseille. Cet après-midi, 10 à 19 degrés. Donc ça grimpe petit à petit. En revanche, dans le ciel, alors là, c'est pas terrible. Hein. On a des averses quasiment partout. Un ciel couvert sur toutes les régions. On a des averses ce matin entre le Languedoc et le Grand Est, avec des orages qui se développent ce matin sur les Cévennes, le Var, la Provence, la vallée du Rhône. On a de bonnes pluies aussi à l'ouest, entre les côtes de la Manche et le Limousin. C'est un ciel chargé et menaçant pour tout le pays, sauf pour la Corse.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon week-end, peut-être pas tout de suite. Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 26 avril, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, l'épilogue d'une affaire qui a tenu une partie de la France en haleine. Kenji Girac aurait simulé son suicide après une dispute avec sa compagne qui menaçait de le quitter. Récit complet dès le début de ce journal. La campagne pour les élections européennes. Le président du Rassemblement National défend une Europe des nations avec un rôle central pour la France. Jordan Bardella a livré les grandes lignes de son programme. Le président du RN qui continue de creuser l'écart sur le baromètre Opinion Way. Pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, avec 30% d'intention de vote. Le RN est à 12 points devant la liste Renaissance de la majorité présidentielle. Dans ce journal également, les pilotes de ligne inquiets face au développement de l'intelligence artificielle dans les cockpits. Manifestation ce matin à Roissy. Enfin, l'âge d'or des salles de cinéma, raconté par la Fondation Pathé. Vous allez voir, c'est épatant. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'histoire d'un chanteur qui ne voulait pas être abandonné. Résumé un peu abrupt dans le cas de Kenji Girac, mais pour le procureur de la République, c'est la piste à suivre. Oui, l'artiste a bel et bien retourné l'arme contre lui. C'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. Reste à savoir s'il a fait feu volontairement ou par maladresse. Là aussi, la justice penche pour un suicide simulé après une dispute avec sa compagne qui menaçait de le quitter. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest.
Pas d'intervention d'un tiers, pas un tir accidentel non plus. Dimanche dernier, toute la journée, Kenji Girac boit beaucoup, un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, selon les estimations médicales. Les analyses révéleront aussi des traces de cocaïne. Ivre, quand il revient dans sa caravane, le chanteur se dispute avec sa compagne. D'autant qu'en rentrant, il a réveillé leur petite fille. Entendant sa femme évoquer son départ, l'artiste, seul dans le salon, la petite et sa mère sont dans la chambre, va s'emparer du pistolet qu'il a acheté quelques jours plus tôt, 500 euros. Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il l'a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Quelques expertises sont en cours d'achèvement, mais le magistrat explique que cette procédure, sur le plan judiciaire, devrait donc se terminer par un classement. Mont-de-Marsan, Stéphane Place, Europe 1.
Une nouvelle affaire maintenant, une affaire présumée de guet-apens, met en lumière le rôle potentiellement néfaste du site de rencontre Coco.
Enquête ouverte à Cholet après la violente agression d'un homosexuel tabassé par plusieurs individus et dépouillé, c'était il y a 2 jours. Ce réseau social soupçonné d'être à l'origine de la mort de Philippe aussi à Grande-Synthe. Ce site est toujours actif, mais il intéresse de plus en plus les enquêteurs, William Molinier.
Il est régulièrement pointé du doigt par les familles de victimes et les associations. Coco, ce site internet refuge des délinquants en quête de discrétion, officie depuis une décennie. Sans jamais être inquiété, en 2022, la plateforme bulgare est partie s'héberger à Guernesey. L'île britannique se trouve en dehors de l'Union européenne, a priori hors d'atteinte des autorités françaises. Sauf que, depuis l'automne dernier, le règlement européen dit DSA permet de poursuivre les plateformes dans le monde entier dès lors que des citoyens européens sont ciblés. L'occasion pour Véronique Rondeau-Abouli, avocate spécialiste du numérique, de tester cette nouvelle disposition.
Les utilisateurs eux-mêmes peuvent considérer que l'utilisation du réseau social porte atteinte en tant que telle à leur vie privée. Ça ne serait pas forcément insensé de saisir les juridictions au titre de la protection qui leur est donnée par le DSA.
Les utilisateurs, mais aussi l'État, via l'ARCOM, pourraient, selon l'avocate, contraindre la plateforme au regard du droit européen pour pour la forcer à modérer davantage, voire à la fermer définitivement.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Il est 7h04 sur Europe 1. La campagne pour les élections européennes, le baromètre Opinion Way pour Europe 1 CNews et le JDD confirment la large avance du Rassemblement National dans les intentions de vote.
30% pour le RN qui continue de faire la course en tête, loin devant la liste de Valérie Ayer reléguée à 12 points. Dans son rétroviseur, la candidate de la Macronie voit revenir le socialiste Raphaël Glucksmann, crédité de 13% d'intention de vote.
Oui, Emmanuel Macron lui était en mission hier à l'université de la Sorbonne, sauver l'Europe d'une mort certaine si elle n'évolue pas.
Et en creux, le chef de l'État cherche aussi à sauver la candidate Ayer. C'est aussi ce que lui reprochent les oppositions, le Rassemblement National qui engage le bras de fer avec Emmanuel Macron. Présentation du programme du RN pour ses européennes, son président Jordan Bardella cherche à prendre le chef de l'État à contre-pied sur son terrain favori, l'Europe. Alexandre Chauveau.
Oui, un projet bâti sur deux piliers, protéger et produire. La protection d'abord, avec un renforcement des frontières, en faisant de Frontex une vraie agence de lutte contre l'immigration clandestine. Protection également des intérêts économiques de l'Union, en luttant contre la concurrence déloyale en matière de libre-échange. La production ensuite, pour tenter de réduire les dépendances de l'Europe. Cela passerait notamment par une coopération européenne des pays favorables au nucléaire, censée permettre, grâce à une énergie à bas coût, la réindustrialisation du continent. Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes.
Ce que nous prenons pour de l'ouverture et de la générosité est en réalité perçu par nos concurrents comme de la faiblesse, du renoncement et bien souvent comme de la naïveté. Nous incarnons, je le crois, ce projet de redressement profitable tout à la fois à notre pays et à notre continent.
Au Rassemblement National, le discours d'Emmanuel Macron hier à la Sorbonne est vu comme un engagement personnel dans la campagne. En cas de défaite, il devra donc en tirer toutes les conséquences, affirme Jordan Bardella, qui demandera en cas de victoire le 9 juin prochain une dissolution de l'Assemblée.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Un retour à la normale dans les aéroports français ce matin après la grande pagaille d'hier.
Le jeudi noir annoncé s'est bien produit malgré l'annulation de la grève des contrôleurs aériens. Plusieurs centaines d'avions cloués au sol et des aéroports parfois désertés. Après les aiguilleurs du ciel, les pilotes. Manifestation à 11h ce matin à Roissy à l'appel du SNPL. Le principal syndicat dénonce la place de plus en plus importante prise par l'intelligence artificielle dans les cockpits et donc les menaces sur l'emploi. Une fausse inquiétude pour Xavier Tittelmann, consultant en aéronautique.
Aujourd'hui, il faut bien être clair, il y a deux pilotes dans les appareils, quel que soit l'avion, voire trois ou quatre pilotes quand on va faire des vols qui vont dépasser 10, 12, 14 heures de vol. L'objectif des compagnies aériennes qui n'arrivent pas à recruter des pilotes, c'est de pouvoir faire en sorte que oui, il y aura toujours deux pilotes au décollage et à l'atterrissage, mais sur un vol très long, on pourrait imaginer qu'un pilote se retrouve seul aux commandes pendant quelques dizaines de minutes, peut-être une heure, et que l'autre pilote puisse aller se reposer. Mais ça veut dire qu'on aurait un pilote qui serait tout seul dans le cockpit, qui serait encore plus assisté par des systèmes d'intelligence artificielle et également des systèmes de suivi de ses performances. Est-ce qu'il est en train de s'endormir? Est-ce qu'il est totalement en train de vérifier ce qui se passe dans la machine? Et c'est ça la sécurité que pourrait apporter l'intelligence artificielle si jamais on passe avec moins de pilotes dans les avions.
Xavier Tittelmann, consultant en aéronautique avec Antoine Bienvaux. On choisit ses copains mais rarement sa famille, dit le chanteur Renaud. On peut aussi choisir son nom, possibilité offerte par la loi depuis deux ans. Près de 150 000 Français l'ont fait, démarche effectuée en majorité par les 18-29 ans selon l'INSEE.
Et puis du cinéma dans ce journal, le Luxor, le Rex, le Paramount, la Fondation Pathé ressuscitent l'âge d'or des palais du cinéma.
Et des salles mythiques parfois en danger, on pense à l'UGC Normandie des Champs-Élysées qui devrait bientôt fermer. La Fondation Pathé a donc décidé de les faire revivre à sa manière. Visite guidée avec Marie Jiquel.
Le Rex et son style art déco, le Luxor et ses mosaïques égyptiennes très modernes à l'époque, le Paramount surnommé le Ritz des cinémas parisiens et le géant Gaumont Palace.
Le Gaumont Palace dans les années 30 avec sa façade majestueuse pleine de lumière, on dit qu'on voyait ce puits de lumière très loin dans Paris.
Ces temples du cinéma aux façades ornées de néons, métamorphosées ou rasées, ressuscitent ici à travers des photos, des affiches, alors à l'époque pas encore de pop-corn, mais des loges pour les plus riches, des restaurants et même des garderies pour enfants. Axel Huyghe est l'un des commissaires.
Pour se différencier du théâtre, les architectes pensent au siège face à l'écran et non plus tourner sur le côté pour ne pas tourner la tête. L'aération, très importante puisqu'on peut fumer dans la salle. Des orchestres, balcons, mezzanines. Donc le spectacle est aussi dans la salle, effectivement.
Une exposition en lien avec l'ouverture en juin prochain du Pathé Palace. Nouvelle salle pensée par l'architecte Renzo Piano sur les grands boulevards à Paris. Le retour des monuments ciné avec l'option pop-corn.
Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. Et puis tiens, le sport, 31e journée de Ligue 1 ce week-end avec un Montpellier-Nantes en guise de hors-d'œuvre ce soir. Coup d'envoi à 21h.
Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives
d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour à tous.
Alors, quel 26 avril allons-nous revivre ? J'ai un indice peut-être. Hein.
La création de Love Story, la première télé-réalité française, le 26 avril 2001.
Ah bah que de souvenirs. Ce sera juste après l'invité actu d'Europe 1 matin. Nous prendrons la direction de Bruxelles. En effet, dans un instant, rejoindre Fadila Maroufi. Elle lutte au quotidien contre l'influence croissante de l'islam politique sur la société belge. Elle va nous raconter. À tout de suite.
7h, 9h. Europe 1 matin.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la cofondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, en Belgique, Fadila Maroufi.
Bonjour Fadila Maroufi.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi la cofondatrice du Café laïque de Bruxelles. Bruxelles est-elle devenue la capitale européenne de l'islam politique? On se pose la question ce matin avec vous, Fadila Maroufi, sur Europe 1. Une semaine après un événement qui a marqué là en France, la tentative d'annulation d'une conférence des nationaux conservateurs européens dans l'une des communes de Bruxelles, dirigée par le bourgmestre Emir Kir. Vous allez peut-être nous parler un peu de lui. Alors, cette fameuse conférence, elle a malgré tout eu lieu. Il a fallu que ça remonte jusqu'au Conseil d'État belge, mais ce que l'on a découvert en France, Fadila Maroufi, c'est l'influence extrêmement forte à Bruxelles d'un islam fondamentaliste, particulièrement pugnace, et qui parvient à obtenir des autorités la censure de tout groupe politique qui ne lui est pas favorable. Car ce sont des fondamentalistes qui ont œuvré à l'interdiction de cette conférence. Vous les connaissez bien, vous, Fadila Maroufi, tous ces censeurs islamistes?
Oui, tout à fait. Ça fait depuis quelques années, en fait, que d'abord, je suis née à Bruxelles et je suis issue d'une famille de musulmane. Et je suis l'aînée de 8 enfants. Donc, évidemment, j'ai grandi à Bruxelles dans un quartier qu'on appelle les quartiers assez sensibles, juste à côté de Molenbeek. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler quand même, pour qu'on comprenne un peu, en fait, qu'est-ce que Bruxelles et comment elle est constituée. Donc, la région de Bruxelles est constituée de 19 communes et on a une population musulmane qui est aussi entre 22 et 44% de musulmans. Ce qui est évidemment porte des voix musulmanes qui sont importantes pour les élections. Il y a évidemment en 2024 les élections européennes, mais il y a aussi les élections pour la Belgique régionale, fédérale et communale. Donc le vote des musulmans est très important à Bruxelles pour tous les partis politiques, francophones notamment. Et évidemment, la gauche qui a pour la plupart du temps jusqu'à présent eu des votes musulmans, mais on voit aussi que ces dernières années, la droite commence à recruter auprès des personnes de la communauté musulmane.
Oui, il y a un enjeu. Alors, vu les chiffres que vous nous donnez, vous nous dites 22 à 44% de musulmans vivant dans Bruxelles, dans les différentes communes de Bruxelles capitale. L'enjeu électoral, c'est le vecteur d'une islamisation plus ou moins douce des mœurs de la société bruxelloise aujourd'hui, Fadila Maroufi?
Oui, l'islamisation, en fait, s'est faite progressivement depuis 40 ans. Maintenant, nous sommes à 3 voire 4 générations de personnes islamisées. Et ces 20 dernières années, on peut constater, ce qu'on constate, c'est que les femmes sont en avant-plan des militantes islamistes qui revendiquent le droit de porter le voile et de le porter partout. Elles sont éduquées pour la plupart du temps, elles ont un niveau d'éducation universitaire et elles sont très influentes parce que les frères musulmans, évidemment, ont compris qu'avec les femmes, ils pouvaient avancer leur projet califal. Et un exemple...
Projet califal. Vous dites, Fadila Maroufi, c'est un projet califal.
Ah ben bien sûr, c'est imposer les normes chariatiques ici à Bruxelles, mais aussi partout en Europe, puisque Bruxelles est quand même aussi la capitale de l'Europe, les institutions européennes s'y trouvent,
oui.
Et il y a une influence des frères musulmans qui est très présente. Mais pour vous donner un exemple de l'influence des femmes, Bruxelles Molenbeek présentera sa candidature pour être en 2030 la capitale européenne de la culture. La personne qui a été choisie, c'est Fatima Zibou, femme voilée, proche des frères musulmans, qui a un doctorat en sciences politiques et sociales, qui est une entrepreneuse sociale. Elle est extrêmement influente et c'est quelqu'un qui est influente un peu partout à Bruxelles. Mmh. On peut la voir. Elle est mise en avant par les médias francophones belges.
Alors, ce fondamentalisme islamique, cette politisation islamique, islamiste de la vie bruxelloise, Fadila Maroufi, comment ça se traduit dans la vie quotidienne? À quoi ça se voit? Parce que ça se voit.
Alors, ça, on peut le voir d'abord quand on se balade à Bruxelles, que ce soit dans les transports en commun ou un peu partout à Bruxelles. La grande majorité des femmes musulmanes sont voilées. Mais ce qui est plus inquiétant maintenant, parce que on parle même plus du voile des femmes, c'est plutôt le voilement des petites filles. Et honnêtement, vous traversez Bruxelles, vous pouvez le constater par vous-même, mais c'est aussi dans certaines écoles, des établissements scolaires, notamment le parti Réseau Libre catholique. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez dans une école, il y a 10 ans, on a recruté une femme professeure de mathématiques voilée. Maintenant, elles sont plus de 10. L'équipe éducative est constituée, la direction, de personnalités de confession musulmane. Et là où ça pose question, c'est que ces professeurs réprimandent les filles qui parlent, par exemple, dans les couloirs de l'école avec un garçon. Elles sont réprimandées par ces professeurs. Si elles décident d'enlever le foulard lors d'une sortie à la mer, elles sont réprimandées, elles sont rappelées à l'ordre parce que enlever son voile est péché. Mais c'est dans la vie du quotidien qu'on le voit, mais aussi au niveau politique. Nous avons des personnalités comme Emir Kir, dont vous avez parlé et vous avez rappelé, qui a tenté d'annuler un événement.
Donc c'est le maire de la commune de Saint-Josse-ten-Noz, hein, qui fait partie de ces 19 communes formant Bruxelles Capitale. Hein.
Tout à fait. Pour rappel, c'était pas le seul. Nous avons eu aussi un autre maire de Bruxelles, Philippe Klaus, c'est lui le premier en fait qui a annulé l'événement, qui a fait annuler l'événement. Et qui fait partie du Parti socialiste. C'est aussi
Mais comment ça marche? Pardonnez-moi, Fadila Maroufi, mais comment ça se voit sur la carte? Est-ce que ce que vous nous décrivez là, ce sont des sortes d'isolats islamiques à l'intérieur de Bruxelles, des quartiers qui sont vivant une forme de repli communautaire, ou est-ce que ça va au-delà de ça, cette influence? Comment réagissent les Belges? Comment réagit la société? Je pense à cela parce que en France, on a eu l'exemple récent de Gabriel Attal, le Premier ministre, pointant du doigt l'entrisme islamique. Ça lui a valu quelques reproches d'ailleurs du recteur de la mosquée de Paris. Est-ce qu'on voit ce genre de réaction politique en Belgique, ou bien tout ce que vous nous racontez s'opère dans une inertie, une sorte de silence généralisé, tout va bien, Madame la Marquise?
Alors tout ça, en fait, se fait d'une manière très discrète. Alors on a parfois évidemment des événements qui montrent qu'il y a un problème. Hein. Si on prend par exemple un conseil communal à Anderlecht, où il a fallu porter le vote d'une motion par la gauche et par écolo sur le port du voile dans l'administration, la veille, il faut savoir que ces élus ont été menacés de mort et que finalement on a quand même voté cette autorisation au port du voile. Et donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc il y a parfois des petits coups comme ça médiatiques, mais qui ne durent pas très longtemps, puisqu'ils peuvent compter aussi sur le silence des médias sur toutes ces questions qui touchent l'islamisme et la radicalisation. Voilà, et puis les citoyens le ressentent, mais ils n'ont pas vraiment grand-chose à dire, oui. Puisque à partir du moment où vous en parlez, vous êtes tout de suite censuré, vous êtes ostracisé, vous êtes attaqué, puisque encore une fois, les frères musulmans sont vraiment très puissants et très très présents dans tous les secteurs de la société maintenant, à l'heure actuelle, à Bruxelles. Donc Bruxelles est vraiment pris, et les partis politiques, encore une fois, n'oseront jamais prendre position, de peur évidemment de ne pas avoir le vote des musulmans, surtout à l'heure actuelle. Et on le voit notamment depuis le 7 octobre avec le conflit Israël-Palestine, qui devient vraiment un enjeu électoral à l'heure actuelle. Donc on voit certaines personnalités qui hissent le drapeau palestinien devant la maison communale sans demander l'avis des autres élus, comme c'est le cas à Evere avec le bourgmestre Redouane Chaïd, et d'ailleurs qui s'en vante, hein, qui s'en cache pas et qui dit clairement qu'il a pris cette initiative sans en parler aux autres élus, qu'il trouve ça normalement. Il explique ça devant les médias en disant oui, j'ai pris cette décision puisqu'on l'a fait à l'Ukraine, on le fait aussi pour la Palestine. Et ce sont des associations telles que BDS, le boycott des investissements sanctions, qui en a fait la demande et ça a été accepté. Alors que des citoyens ont demandé à hisser aussi le drapeau israélien, ça a été refusé, puisque ce bourgmestre dit tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu de la part d'Israël, on ne nous hisserons pas le drapeau d'Israël. Donc on voit quand même qu'il y a l'influence, en tout cas, de la communauté musulmane est très forte, et donc ça oblige les partis politiques de se taire. Le parti réformateur, qui est libéral, donc qui est l'équivalent du LR, on peut dire qu'ils se positionnent contre l'islamisme en parole, mais ça n'empêche pas que ces dernières années, ils ont beaucoup recruté au sein de la communauté musulmane. Et il y a aussi des personnes frères musulmans au sein même de leur parti.
Ouais, c'est assez édifiant ce que vous nous racontez, Fadila Maroufi. J'ai cité votre observatoire tout à l'heure, l'observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Alors c'est intéressant de voir ce que vous faites. Ça produit de la connaissance, vous nourrissez les réseaux sociaux. Vous tenez aussi des permanences sociales, Fadila Maroufi. Mais ça s'adresse à qui? Qui vient vous voir?
Alors très souvent, j'ai un peu de tout public, des personnes qui sont issues de familles musulmanes, qui sont elles-mêmes musulmanes, ou alors des ex-musulmans. J'ai aussi des professeurs, des instituteurs, des directions d'école qui s'adressent à moi. Toute personne en tout cas qui se sent soit menacée directement ou indirectement par le fondamentalisme islamique. Et donc j'essaye de les voir, mais évidemment ça, de les rencontrer pour en discuter. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce que certaines personnes essayent de me tendre des pièges, on va dire, et de me de me rencontrer pour essayer de me faire taire puisque je suis menacée de mort au sein de mon pays. Et que tout ce qu'on dénonce au sein de l'observatoire gêne énormément et de plus en plus, puisque jusqu'à présent, très peu de personnes, voire quasiment personne en fait, n'en parle.
Oui. Le destin que vous nous racontez de la Belgique, très rapidement, Fadila Maroufi, vous imaginez que ça puisse un jour se produire en France, qu'on puisse en arriver là?
Alors la France pourrait évidemment, puisque depuis Bruxelles en tout cas, le CCIF qui a été dissous est venu s'installer sous l'appellation du CCIE, attaque les islamistes depuis Bruxelles, attaque la France et surtout au niveau des institutions européennes. Donc il faut vraiment que la France s'intéresse à Bruxelles plus que jamais. Parce que vous êtes un pays qui résistait, on le sent dans les débats, dans les discussions, vous avez des médias qui sont diverses alors que chez nous, nous sommes très limités. Les citoyens belges, nous suivons la presse française comme Europe 1 ou CNews ou d'autres médias français qui parlent de ces phénomènes. Alors juste aussi pour rappeler très rapidement, hein, puisque vous demandez des choses concrètes à Bruxelles, il y a eu, en décembre 2023, on a parlé de Majed Alzer, le chef européen du Hamas, qui dispose de bureaux devant le Parlement européen. Et évidemment, pour lui, il s'agit d'observer ce qui se passe dans les institutions européennes et d'être un lobby. Donc on voit bien quand même que des djihadistes, des personnes radicalisées peuvent vivre tranquillement à Bruxelles sans être inquiétés par nos politiques.
Oui. Des bureaux du Hamas juste en face du Parlement européen, c'est vous qui nous racontez ça, Fadila Maroufi. Merci de votre témoignage très fort ce matin sur l'antenne d'Europe 1. D'ailleurs, je précise à nos auditeurs qu'on va vous retrouver dans un petit quart d'heure pour une déambulation en compagnie de la reporter Europe 1 Caroline Baudry dans cette Belgique, dans ce Bruxelles sous l'emprise des islamistes. Merci à vous, Fadila Maroufi. Bonne journée.
Merci à vous. Merci. Bonne journée.
Europe 1.
Il est 7h23. Apprendre à découvrir une personnalité grâce à ce qu'il écoute, grâce aux chansons qui ont marqué sa vie. C'est le programme tous les dimanches sur Europe 1.
Oui, c'est de 17h à 18h. Didier Barbelivien vous fait découvrir la bande originale de la vie de ses invités. Et ce dimanche, c'est le journaliste Romain Desarbres qui va se dévoiler. Romain Desarbres qui présente la grande interview Europe 1 CNews tous les vendredis à 8h10, qu'on va retrouver tout à l'heure, sera donc l'invité de Didier Barbelivien. Dis-moi ce que tu chantes. C'est tous les dimanches de 17h à 18h sur Europe 1.
Allez, bon réveil à vous. vous, bienvenue si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité, le journal permanent. Christophe Lamar sur Europe 1.
La campagne pour les élections européennes, le Rassemblement National continue de creuser l'écart sur le baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD. Avec 30% d'intention de vote, le RN compte 12 points d'avance sur la liste Renaissance de la majorité présidentielle. Valérie Ayé bientôt talonnée par Place Publique du socialiste Raphaël Glucksmann. On se dirige vers un classement sans suite dans l'enquête judiciaire sur la blessure par balle de Kenji Girac. Selon le procureur de la République, le chanteur aurait simulé une tentative de suicide après une dispute avec sa compagne qui menaçait de le quitter. Le ministre de l'Intérieur favorable au couvre-feu pour les mineurs en cas de violence. Gérald Darmanin soutient l'initiative des maires qui ont pris cette décision, comme à Béziers. Je les soutiens et les préfets les soutiendront. Déclaration en marge d'un déplacement dans l'Aveyron. Enfin, le football avec la 31e journée de Ligue 1. Montpellier-Nantes ce soir en ouverture. Coup d'envoi à 21h.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour.
Le 26 avril 2001 commençait la toute première émission de télé-réalité en France. Loft Story, je vais y arriver. 11 célibataires coupés du monde, filmés, écoutés 24h sur 24. La France, lors d'Autriche, va se passionner pour eux pendant 10 semaines.
Oui, pour la première fois, une dizaine de jeunes allaient cohabiter sous l'œil des caméras pendant 2 mois et demi, isolés du monde extérieur. Et les téléspectateurs doivent alors éliminer chaque semaine un candidat.
La France n'y a donc pas échappé à l'image des Big Brother et autres survivors venus des États-Unis. M6 lance ce soir sa Love Story. Le bon vieux tourné-manège, disparu de la télé il y a quelques années, semble maintenant bien désuet.
L'émission devient dès la première semaine un énorme succès. Les lofters, comme on les appelle, sont suivis par 5 millions de téléspectateurs. À l'époque, en 2001, le débat se cristallise autour d'une question. Est-ce ou non du voyeurisme ? Témoignage sur Europe 1.
Moi, j'aime énormément. Je l'enregistre quand je ne suis pas chez moi pour l'instant. Je trouve ça très sympathique.
Mais moi, je trouve que c'est quand même une vaste escroquerie. Et c'est carrément... Mais alors, soft.
Vous aimeriez que ce soit plus hard.
Un peu plus érotique.
Et effectivement, à l'époque, c'est aussi un sujet. Le présentateur Benjamin Castaldi se défend sur Europe 1. Ce n'est pas une émission à caractère sexuel.
C'est un programme familial avant tout. C'est plus proche de la sitcom classique que du film X. C'est pas le propos de l'émission. Le propos de l'émission, c'est de voir comment se tissent des liens entre des jeunes qui ont entre 18 et 28 ans.
Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez.
Face aux critiques aussi sur la faible qualité de l'émission en termes de contenu, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal, relativise.
Il ne faudrait pas non plus s'acharner sur une émission populaire, alors que d'autres, parfois, sont beaucoup plus contestables.
Et à la fin, c'est l'une des jeunes stars du programme, Loana, danseuse de cabaret dans la vie, qui sort gagnante.
Vous êtes quand même une star, Loana.
Oui, ouais, j'ai encore du mal à m'y faire, alors. Moi, ça me fait énormément plaisir. Après, je ne sais pas pourquoi.
Si vous n'aviez pas été un peu fauché, un peu paumé, est-ce que vous pensez que vous auriez eu cette notoriété fulgurante ?
Ben, j'espère que ce n'est pas que à cause de ça.
Le succès est tel qu'à la sortie du loft, les vainqueurs, dont Loana, ont remonté en voiture les Champs-Élysées, saluer leurs fans dans une ambiance presque de finale de Coupe du Monde.
Merci, Lord Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et c'est le dernier jour aujourd'hui, vendredi. Vous n'hésitez plus parce qu'Europe 1 vous offre un magnifique cadeau. Donc c'est maintenant ou jamais. Vous allez peut-être partir en croisière avec CroisiEurope, la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe. Vous allez naviguer pendant 5 jours au fil de la Garonne et de la Dordogne. Alors, il n'y aura pas que du Bordeaux rosé, hein, aussi. Il y aura tous les trésors vinicoles du sud-ouest. Blaye, Libourne, Saint-Émilion, tout est compris à bord. Une cuisine raffinée, des boissons, des animations et des visites guidées. Europe 1 s'occupe de tout pour vous grâce à croisiEurope.com.
Voilà, consommer avec modération tout de même. Évidemment, le Bordeaux rosé. La question du jour, la voici. Qui fut la gagnante de la première édition de Love Story ? Était-ce Loana ou Delphine ?
Pour tenter votre chance, ce matin, vous envoyez Croisière. Je vous rappelle que c'est le dernier jour, donc allez-y, croisière. Au 739-21, 2x75 centimes plus coût du SMS, le tirage au sort aura lieu dans la journée. Bonne chance à tous. Notez qu'à 8h10, Catherine Vautrin sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews.
La ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités face à Romain Desarbres. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous dès lundi, de 19h à 21h, pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée, avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous lundi de 19h à 21h sur Europe 1.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ses portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200 euros par tranche de 1000 euros sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril. Ixina, vie à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Le temps, Anissa et Dadi, nous avons un vendredi pluvieux.
Oui, très pluvieux, très nuageux sur l'ensemble du pays. Alors, c'est pas terrible dans le ciel, effectivement, parce qu'on a des averses. Alors, ce matin, on a beaucoup d'averses entre le Languedoc et le Grand Est, en passant par la vallée du Rhône, l'Auvergne, la Bourgogne. Des averses qui vont durer une bonne partie de la journée. Mais attention, sur les Cévennes, le Var, la Provence et la vallée du Rhône, on a des orages qui éclatent et des orages qui peuvent être localement forts. On a de bonnes pluies également à l'ouest, entre les côtes de la Manche et le Limousin. On a un ciel chargé sur l'ensemble du pays. C'est menaçant partout. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous aurez des éclaircies. Donc vous direz, mais attendez, c'est pas ce qu'Anissa nous a dit sur Europe 1. Eh bien si, parce que vous verrez que très rapidement après l'éclaircie, il y aura une averse. Et ça va être comme ça tout au long de la journée, une alternance d'averses et d'éclaircies. Il y a un seul endroit en France aujourd'hui où il va faire beau. C'est en Corse. Les températures 10 à 19 degrés, ça se radoucit doucement.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Il est pile 7h30 à la une ce matin. Le choc d'une petite ville en Haute-Savoie. Elle abritait sans le savoir un apprenti terroriste de 16 ans qui projetait de mourir en martyr pendant les Jeux Olympiques. Sa garde à vue se poursuit pendant ce que les habitants eux peinent à réaliser. Dans l'actualité également, une peine de cœur, beaucoup d'alcool, un tir en pleine poitrine. Voilà ce qui a failli tuer le chanteur Kenji Girac. Il avoue devant les enquêteurs avoir voulu simuler son suicide pour retenir sa compagne. Sa compagne, la France, elle suspendue à la décision des agences Fitch et Moody's qui vont réévaluer ce soir 22h la note de sa dette publique. Et puis des gymnases au monastère. On va vous raconter l'histoire d'un volleyeur qui s'apprête à devenir prêtre. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Au grand jour, un adolescent sans histoire, sur les réseaux sociaux et dans sa chambre, un terroriste présumé qui préparait un attentat pendant les Jeux Olympiques. La petite commune de Marigné, en Haute-Savoie, est encore sous le choc de l'arrestation cette semaine de ce garçon de 16 ans, lui qui voulait se faire exploser dans le quartier de la Défense à Paris cet été. Reportage Europe 1 signé Noémie Loisel.
Sur les hauteurs de Marigné, une zone pavillonnaire proprette, au jardin bien entretenu. Impossible pour les habitants d'envisager qu'un jeune d'ici ait préparé un attentat.
On a vu à travers la haie, ouais, des gens, trois personnes cagoulées. Honnêtement, on n'en serait pas douté, non. On le croisait le soir, toujours un bonjour, respectueux.
Respectueux, très gentil, assez timide et sans histoire, le jeune garçon joue souvent au football dans le quartier, racontent les habitants. Rien ne pouvait laisser croire à une possible radicalisation, explique l'un de ses anciens partenaires de football, qui préfère rester anonyme pour des raisons de voisinage.
On jouait au foot tous ensemble, on faisait des cache-cache, super gentil, très poli, pas de signe de violence, rien du tout, vraiment un super gamin, très gentil, je vois pas faire de telles choses.
Une famille, on ne peut plus, normale, de 4 enfants et des parents sérieux, décrit une autre voisine.
Voilà, c'est une famille qui est tellement calme, tellement gentille, tellement ouverte, en fait, que pour moi, il n'y a aucun moment eu de la radicalisation ou quoi que ce soit, quoi.
Placé en garde à vue, l'adolescent a été suivi pour radicalisation. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé un serment d'allégeance à Daesh. Marigné, Noémie Loisel, Europe 1.
Attentat déjoué donc sur les Jeux Olympiques, des JO. Sans grève à la RATP, les conducteurs de métro sont tombés d'accord avec la direction hier sur le montant des primes JO, de 1500 à 2600 euros pour les agents mobilisés cet été.
Il a voulu simuler un suicide pour convaincre sa femme de ne pas le quitter. C'est la nouvelle version du chanteur Kenji Girac devant les enquêteurs.
Après cette balle qui a traversé son thorax, ce tir qu'il disait totalement accidentel, il avoue finalement avoir pointé l'arme contre sa poitrine dans un désespoir fortement alcoolisé. C'est le long récit qu'a livré hier Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur. J'étais tout seul. Ma famille n'était pas là. Il faut comprendre son père, sa mère, ses sœurs. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, j'ai eu peur. Il précise qu'il n'avait jusqu'alors pas donné cette version à sa famille et qu'il leur avait dit que le coup était parti tout seul. J'ai pris l'arme avec la main gauche par le canon. Je l'ai amené à ma main droite. Je tenais le pistolet avec ma main droite et j'ai orienté le canon vers ma poitrine en me tenant avec ma main gauche pour faciliter le mouvement. Puis j'ai tiré le chien en arrière. En tenant l'arme, j'ai un peu basculé vers l'avant. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Il précisera par la suite, j'étais sous un point de ne pas savoir trop quoi faire. J'ai perdu le contrôle, mais j'étais en état de comprendre ce que me disait Soraya, qu'il qualifie au passage de femme de sa vie.
Et conséquence de ces déclarations, l'enquête pour homicide volontaire va être classée sans suite. Elle continue en revanche pour savoir où s'est procuré l'arme, où l'artiste s'est procuré l'arme. La politique et quand Emmanuel Macron met en garde contre les nationalismes, Jordan Bardella enchaîne en prônant une Europe des nations. Discours croisé hier du chef de l'État à la Sorbonne et de la tête de liste RN aux futures européennes. Ce matin, ce baromètre OpinionWay pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche, le Rassemblement national creuse l'écart, 12 points d'écart désormais dans les intentions de vote. Le scrutin, c'est dans un mois et demi.
Autre échéance pour les exécutifs imminente, celle-ci. Les agences Fitch et Moody's dévoilent ce soir leur nouvelle note de la dette souveraine française.
Et quelques semaines après l'annonce des dérapages du déficit public, il y a des raisons de ne pas être totalement optimiste. Mais concrètement, Baptiste Morin, que changerait une dégradation de la note française ?
Le risque économique est celui d'une réaction des marchés, une hausse des taux auxquels la France emprunte. En clair, que ses créanciers réclament une meilleure rémunération. Après tout, ils seraient en mesure de le demander. Mais ce risque a déjà été absorbé par les marchés, explique Charlotte de Montpellier, chef économiste chez ING.
Il pourrait y avoir une réaction si, par exemple, on avait un jour une agence de notation qui dégradait de manière nette, par exemple deux crans. Alors là, on pourrait avoir une surprise et une réaction des marchés. Mais s'il y a une dégradation vraisemblable ou raisonnable compte tenu du contexte, en fait, c'est déjà intégré dans les cours et finalement, les marchés réagissent très peu à ce genre d'événement.
Et puis, la France reste un placement recherché en Europe. Il y a plus attractif sur le papier pour les créanciers. Par exemple, il y a l'Allemagne, mais les Allemands émettent très peu de dettes. Alors à la place, les investisseurs se tournent vers la France. Et ce n'est pas une dégradation qui ferait passer la note française de l'équivalent d'un 18 sur 20 à un 17 sur 20 qui y changera grand-chose.
Baptiste Morin, aux États-Unis, l'université américaine Columbia ne sera pas vidée tout de suite des étudiants pro-palestiniens qui l'occupent depuis plusieurs jours. Ultimatum et évacuation forcée retardée ce matin, annonce le président du campus. Des manifestations comme celle-ci, il y en a beaucoup aux États-Unis. Reportage à suivre dans le journal de 8h.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h36.
144 000, c'est le chiffre impressionnant du nombre de changements de nom de famille en France depuis bientôt 2 ans.
C'est 3 fois plus qu'avant, annonce l'INSEE. Avant, une loi qui facilite les démarches. Depuis août 2022, plus besoin de passer devant un juge, Louis Salé.
C'est cette loi Vignal qui explique en effet ce boom des changements de nom, des démarches surtout réalisées par des femmes et par des jeunes adultes. Lionel Espina, c'est co-auteur de l'étude à l'INSEE.
Déjà, avant la loi Vignal, les femmes étaient un petit peu plus nombreuses. Avec la loi Vignal, ce phénomène s'est un peu accentué. On a plus de la moitié des personnes qui ont entre 18 et 29 ans. Et puis plus l'âge avance, moins on a de personnes qui se lancent dans ce processus de changement de nom de famille.
Angie David a pris le nom de sa mère. Elle l'explique dans un livre, La Renommée, paru ce mois-ci.
Je voulais quitter le nom de mon père, car mon père s'est très mal, ou même plutôt pas du tout occupé de moi. Et je me faisais d'ailleurs déjà appelé du nom de ma mère, c'est-à-dire David. Angie David était mon pseudonyme, l'équivalent d'un pseudonyme sur le plan juridique depuis 20 ans. Et j'ai pu, grâce à cette loi, devenir pleinement Angie David.
Et dans son étude, l'INSEE note que les 2/3 des demandes concernent le remplacement du nom d'un parent par l'autre, davantage qu'un simple ajout de nom au nom initial.
Louis Salé pour Europe 1. Alors lui ne va pas changer de nom, mais se fera sûrement bientôt appeler Père Ludovic. C'est l'histoire de Ludovic Duhay, profession volleyeur, finaliste même du championnat de France avec l'équipe de Saint-Nazaire, mais qui s'apprête à changer de vie pour rentrer dans les ordres. Portrait signé Sandrine Prioul pour Europe 1.
Certains m'appellent le prêtre.
dans le vestiaire.
Exit, les ambiances survoltées des parquets de volley-ball pour celui qui vient de décider de se consacrer à sa spiritualité.
J'ai un attrait qui pour moi vient du Seigneur et dans ma foi, quand je me déshabille et qu'il y a ma croix au-dessus de mon t-shirt, le raccourci est vite vu dans le vestiaire. Et ben, le short et le ballon, ils seront à la récré quand j'aurai des récré. Il faut le tenter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai envie de me lancer. Puis ça me donnera justement des éléments de réponse s'il y a un manque qui est trop fort ou pas.
Ludovic Duhay, libéraux d'1m92, qui sera d'ici quelques semaines dans un monastère au milieu des chanoines d'Augustin. Objectif ? L'ordination.
Il va y avoir des renoncements, mais c'est une vocation. Et l'image qu'on en a n'est pas forcément la réalité. J'ai été impressionné et j'aime énormément la vie des chanoines. Les chanoines sont très frais et dynamiques, et tout sauf austères justement.
Le futur prêtre semble enthousiaste. Une vie monastique dans un cadre réglé et largement masculin. « Je connais déjà », sourit le capitaine de Saint-Nazaire Volleyball.
Sandrine Prioul. Et puis allez, on laisse tous traîner un jour une amende dans un fond de tiroir. Eh bien, les autorités belges, là, ont arrêté un automobiliste avec plus de 6 millions d'euros d'impayés.
Mais non.
Montant aïe, aïe, aïe. À peine croyable, mais la somme est bien correcte. Hein, les services ont vérifié. Alors, de quel type d'amende vraiment s'agit-il? Il va falloir éclaircir ça, oui. Parce que ce sera probablement pas que des délits routiers. Il en faudrait 2000, selon les estimations, pour atteindre la somme.
Ah, il faut un gros tiroir, là.
J'ajoute, évidemment, que l'homme n'a pas pu régler la somme sur place, mais que son véhicule a été saisi.
6 millions d'euros?
6 millions. Incroyable. 6 millions 200 000 euros.
Il va rembourser toute sa vie, ce brave homme. Enfin bref, je ne sais pas. Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journal. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Direction Bruxelles, capitale de l'Union Européenne. Capitale européenne également de l'islam politique. Nous irons en immersion avec la reporter Europe 1 Caroline Baudry. À tout de suite.
Il est 8h20, bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
À tous ceux qui aiment les fraises nature et à ceux qui les préfèrent avec du sucre, un filet de jus de citron, quelques feuilles de menthe et beaucoup de chantilly. Bah quoi ? Oui, j'aime vivre et alors ? On a quand même le droit de se faire plaisir de temps en temps, non ? Jusqu'à samedi, Intermarché propose la barquette de 500 grammes de fraises rondes d'origine France à 2,69€ seulement. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 5,38€ le kilo, catégorie 1.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ses portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200€ par tranche de 1000€ sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril. Ixina, vie à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vent du sol, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive, vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Très bon début de journée, belle fin de semaine. Nous sommes vendredi, vous écoutez Europe 1. Il est 7h41, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1. On va parler du discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron. Hier matin à la Sorbonne, qui l'a écouté en entier, tiens, pendant 1h40, personne. Pas grand monde apparemment. Ah si, Vincent Trémollet de Villers, évidemment, et il va nous en faire le résumé. Le Club Culture d'Europe 1 Matin aussi arrive dans quelques instants. On attend Nicolas Carreau qui ne saurait tarder. On va parler musique aussi. Oui. Bonjour Oblin Roche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on écoute ce matin?
On écoute Bon Jovi, un nouveau documentaire en 4 parties consacré au groupe américain et dévoilé aujourd'hui.
Bon Jovi, que de souvenirs. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, comme chaque vendredi sur Europe 1, l'enquête de la rédaction. En Belgique, cette semaine, il y a 10 jours, le maire musulman d'une des 19 communes de Bruxelles interdisait une conférence des nationaux conservateurs européens, révélant au passage au public français l'influence conquise par les islamistes dans la capitale du Royaume des Belges et de l'Union européenne. Bonjour Caroline Baudry.
Bonjour.
Reporter Europe 1, Caroline, vous avez passé quelques jours en immersion dans la capitale européenne. Ce que vous avez vu par endroits vous a semblé stupéfiant.
Oui, sur un boulevard de l'hypercentre, où à Scarbec, une commune plus populaire, l'islam rigoriste a en fait carrément pignon sur rue, à quelques kilomètres du Parlement européen. On a déambulé avec Fadila Maaroufi, votre invitée de 7h10, dans la rue de Brabant, par exemple. Premier stop devant une librairie où les personnages dessinés dans les livres pour enfants n'ont pas de visage, conformément à une vision radicale de l'islam.
En réalité, c'est du prosélytisme. Là, vous avez par exemple voilà, un mannequin sans visage. Et on n'avait pas autant de boutiques pour voir l'intégrale, en fait. Vous en aviez une ou deux. Et ce qu'on n'avait pas avant, c'est qu'il n'y avait pas pour enfants non plus. Oui, c'est une petite fille qui doit avoir 9-10 ans, qui porte un voile intégral. Bon, à part le visage, tout le reste est couvert. Les petites filles sont sexualisées depuis toutes petites. Et donc, c'est un véritable problème. Ça vient des pays du Golfe, en fait. Arabie Saoudite, Dubaï, Golfe, le Qatar.
Fadia est menacée de mort pour ses prises de position. Elle marche dans l'angoisse. Elle porte un masque chirurgical pour ne pas être reconnue dans la rue. Elle milite pour la laïcité et reçoit de nombreux signalements qui viennent surtout des enseignants, comme Raymond.
C'est la politique de l'autruche lors des classes de dépaysement d'une semaine. Il y a des enfants qui voulaient prendre leur tapis de prière. En primaire, il y a beaucoup de petites fêtes. Il y a des mamans qui ne voulaient pas que les enfants aillent chanter, aillent danser. Parce que c'est haram. Il y a des enfants qui ont des maux de tête parce qu'ils n'osent pas manger quand c'est le ramadan. Et ça, avant, il n'y avait pas.
Mais alors, comment expliquer, Caroline, l'enracinement du fondamentalisme islamique en Belgique ?
Alors déjà, il faut savoir que la laïcité à la Belge est bien différente de la nôtre. Il y a 7 cultes reconnus et financés, dont la laïcité qui n'est pas au-dessus comme en France. Donc les enfants choisissent un cours d'instruction religieuse à l'école publique, christianisme, judaïsme, islam ou cours de morale pour les athées. Tout cela est cloisonné, c'est devenu un terreau pour le rigorisme. Selon Jemila Benhabib, elle est politologue et fondatrice du collectif Laïcité Yala, d'autant plus que la Belgique a confié la gestion du culte musulman à l'Arabie Saoudite dans les années 60.
Que c'est une monarchie extrêmement riche et qui pouvait aussi offrir une certaine stabilité énergétique. À partir du moment où vous laissez rentrer le loup dans la bergerie, on n'a jamais en fait encouragé des discours humanistes. La mosquée a eu un rôle à jouer dans la radicalisation de plusieurs profils. Et donc, après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, l'imam de la mosquée, qui était donc un diplomate saoudien, a été chassé.
Alors c'est un chaos organisationnel dans lequel les frères musulmans se seraient donc fait une place à Bruxelles, et tout cela avec la complaisance des pouvoirs publics, Caroline.
Absolument, c'est ce que dénoncent avec force ces femmes de terrain que vous venez d'entendre. Elles réclament un état fort, l'interdiction du voile islamique dans toutes les écoles. Les digues de la neutralité politique s'effondrent, selon elles, dans un silence très probablement électoraliste. Dans certaines communes de Bruxelles, près de la moitié des habitants sont de confession musulmane. Parler des dérives d'une religion à des croyances et prendre le risque de les froisser, alors mieux vaut éviter le sujet.
L'enquête Europe 1 du vendredi, signée Caroline Baudry à Bruxelles, et on remercie donc tous les interlocuteurs qu'elle a pu rencontrer, car ses prises de parole ne sont pas forcément évidentes pour elle. Certaines prennent des risques. Il est 7h45 sur Europe 1.
7h-9h, Europe 1 Matin.
La page culture d'Europe 1 Matin, on va parler de littérature avec vous, Nicolas Caro, le vendredi. Alors on le sait, c'est un classique ou un roman culte. Cette semaine, c'est une romancière.
Patricia Highsmith, oui, une nouvelle adaptation de son chef-d'œuvre connaît un joli succès sur Netflix. Sur la plateforme, ça s'appelle Ripley. Et le livre, le talentueux Mr. Ripley, évidemment, déjà adapté en film, souvent avec Alain Delon dans Plein Soleil en 1960 et avec Matt Damon ensuite en 1999, le roman, lui, date de 1955.
Alors, vous nous rappelez l'histoire, Nicolas ?
C'est celle de Tom Ripley. Au passage, on connaît ce roman-là, mais elle en a consacré 4 autres à ce héros. Mais donc, dans le premier, Tom Ripley est un jeune type qui survit comme il peut dans New York avec des escrocs criminables. Il a tout pour lui, pourtant il a du style, et il est cultivé, intelligent. Un jour, un homme très riche, un homme d'affaires, Greenleaf, l'engage. Sa mission, partir en Italie et convaincre le fils de Greenleaf, Dickie, de rentrer en Amérique pour travailler et s'occuper du business familial, plutôt que de vivre la Dolce Vita comme un oisif avec sa petite amie Marge. Tom y va, il rencontre le couple, Dickie est sous le charme, mais Marge se méfie. Il y a un truc qui va pas chez ce Tom Ripley, et elle a vu juste. Tom envie Dickie et sa vie, il est fou de jalousie, il va essayer de prendre son identité et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'argent. Il veut devenir Dickie Greenleaf. C'est un roman génial, un thriller psychologique profond, précis. C'est un roman sur la nature humaine, sur le paraître, sur l'avidité, sur les comportements humains. Le personnage de Tom Ripley est un modèle du genre, à la fois maléfique et séduisant, un héros héros ambivalent, inquiétant. C'est pour ça, sans doute, qu'elle ne l'a pas lâché après un seul roman.
Voilà, le talentueux Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Donc, merci beaucoup, Nicolas Caro. Musique à présent, Omblin Roche, avec cette semaine un documentaire inédit consacré au groupe américain Bon Jovi. C'est à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Disney+.
Plan B dans ma vie, c'était Bon Jovi ou rien. Les mots du chanteur John Bon Jovi face caméra. Le documentaire Thank You, Good Night retrace 40 ans d'un succès qui ne s'est jamais démenti. It's my
Bon Jovi, Omblin, c'est la vitrine d'un pan entier de l'histoire du rock des années 80.
Absolument, le glam rock, hein, moqué par les puristes. On peut l'appeler air metal aussi, hein, si vous préférez baptiser ainsi, grâce à ou à cause. Hein. C'est selon, vous ferez votre avis, de la capillarité exubérante des musiciens. Les cheveux crêpés bouffent sur le dessus, des longueurs jusqu'aux épaules. Une croix se balance à une oreille, en rythme avec les guitares et avec... sacrilège dans le rock, le synthétiseur. Bon Jovi, ultra looké, fait donc partie de ces groupes qui vont tout bousculer sur leur passage. Ils accompagnent la création du CD, sont omniprésents sur la toute nouvelle et toute puissante chaîne de télé américaine MTV. Les uns après les autres, les concerts, affiches complètes.
Ce nouveau documentaire, on peut s'attendre à découvrir des moments qu'on ignore de l'histoire du groupe Bon Jovi.
Oui, en tout cas, c'est la promesse. Hein. Les membres du groupe dévoilent des photos rares et des vidéos personnelles, des maquettes inédites, des cahiers de paroles. Tous jouent le jeu et témoignent sans filtre. Les musiciens d'aujourd'hui, ceux d'hier, et notamment le guitariste Richie Sambora, l'autre pierre angulaire du groupe. Richie Sambora qui a claqué la porte une nuit en 2013. Bon Jovi, vu de l'intérieur, les triomphes, les revers, les excès, les conflits et aussi les preuves qu'à traversé le chanteur quand, blessé aux cordes vocales, il a été contraint de se faire opérer.
De Victor Porcher au moins, elle plus fan.
C'est exceptionnel.
Ah ben vous le regarderez alors. Thank you, good night. L'Odyssée de Bon Jovi, documentaire en 4 épisodes, disponible dès aujourd'hui sur Disney+. 40 ans de musique, Dimitri, 40 ans de coiffure. Oh, notez que Bon Jovi sortira un nouvel album le 7 juin, son nom, Forever.
Jovi, donc sur l'antenne d'Europe 1, à fond les ballons. Si vous êtes en voiture, n'hésitez pas, ça fait du bien. On se lâche, on lâche les cheveux pour c'est ceux ça, qui en ont encore. Je sais pas comment je dois le prendre, ces 40 ans de coiffure que vous avez mentionné. Je suis toujours un peu. Bref. Merci beaucoup, Omblin Roche. Merci, Nicolas Caro. C'est un plaisir. 7h, c'est où on est sur nous. Eh bien, l'info
mais
continue.
7h51.
Avec Victor Porcher pour le journal permanent. Dans un instant aussi, votre édito politique avec Vincent Trémollet de Villers. C'est à vous, Victor.
Les élections européennes et le baromètre OpinionWay pour Europe 1. CNews et le journal du dimanche. Légère progression du Rassemblement national. Plus un point à 30% des intentions de vote. Écart creusé avec la majorité. 12 points désormais. C'était l'une des affaires à l'origine du mouvement MeToo. Une condamnation pour viol d'Harvey Weinstein vient d'être annulée pour vice de procédure. Il y aura un nouveau procès. Le producteur américain reste en prison où il purge une peine de 16 ans pour une autre affaire du même type. Et puis enfouir les émissions de CO2 en se servant d'anciens ou de vieillissants gisements de pétrole. C'est la nouvelle ambition du gouvernement. Il demande aux entreprises de se manifester pour un début de test dès 2025. Objectif, tenir les engagements environnementaux de la France.
7h-9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Vincent.
Vincent, hier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, Emmanuel Macron a prononcé un long discours, hein, plus d'1h30, dans lequel il a donné sa vision de l'Europe. Alors la majorité en attendait beaucoup de ce discours. Est-ce qu'il vous a intéressé ?
J'ai regardé avec intérêt évidemment. Mais cela ne veut pas dire grand-chose, c'est mon métier. En revanche, les Français qui ne sont pas payés pour ça ont plus facilement discuté hier des mystères de la caravane blanche de Kenji Girac plutôt que des clés de répartition du budget européen. Je vous rappelle qu'il était 11h du matin quand Emmanuel Macron a pris la parole, qu'une partie du pays est en vacances et que l'autre travaille. Et puis le président de la République qui parle longuement derrière un pupitre, c'est devenu tellement courant que beaucoup ne se sentent même plus obligés de mettre le son. Alors oui, Emmanuel Macron brille dans l'exercice, mais il en abuse tellement qu'on peut finir par penser que le discours est pour lui la source et le sommet de l'art politique. Pourtant, gouverner, c'est faire plus que dire, et la pratique du pouvoir ne peut pas se résumer à un éternel grand oral.
Mais sur le fond, Vincent, c'était quand même un discours très riche, hein.
Trop riche, presque indigeste. C'était un étouffe citoyen, ce discours. Une de ses faiblesses, il me semble, c'est qu'une fois encore, Emmanuel Macron n'a pas choisi entre le souffle lyrique et le ronronnement technocratique. Il a donc fait les deux. L'Europe est mortelle, a-t-il lancé en écho à Paul Valéry, mais à peine étions-nous dans la gravité que l'on retournait dans des considérations un peu convenues sur le retour des empires et l'Occident assiégé. Et puis on a aussi eu droit à des torrents de détails à faire tourner la tête à un technolâtre. J'en ai gardé un extrait pour vous, Dimitri. Écoutez bien le verbatim. Faire de la libre circulation des électrons décarbonés une nouvelle liberté de notre marché intérieur. Et comment ? Grâce au développement des interconnexions et à la modernisation des réseaux et des structures de stockage.
Ah oui, ça fait rêver.
On dit que l'éloquence, c'est toucher et c'est convaincre. Qui peut être touché et convaincu par le développement des interconnexions et la modernisation des réseaux et des structures de stockage ? L'intelligence, ce n'est pas l'exposition satisfaite d'une maîtrise technique. L'intelligence, c'est rendre aux choses leur simplicité. Et disons-le franchement, une forme de morgue caractérise la Macronie. Cette morgue s'illustre par un sabir administratif orné de tics de langage inclusifs, de références piochées chez Albert Camus ou René Char et d'une dose de franglais. Cette langue faussement sophistiquée, je crois, un des ressorts profonds de la défiance qui anime aujourd'hui beaucoup de Français, comme le chante Alain Souchon. Il faut voir comment on nous parle.
Alors, le président a tout de même déployé une vision plus large, plus ambitieuse que la petite politique qui anime le quotidien.
Ah oui, c'était sky is the limit. Il a promis de refaire l'Europe et ce n'est qu'un début. Mais en attendant les grands mots, comment ne pas avoir en tête les chiffres de notre affaissement ? Notre dette, nos déficits, notre balance commerciale, les bilans catastrophiques du niveau scolaire, de la délinquance, de l'immigration. Comment croire que le chef de l'État pourra reconfigurer une communauté politique de 27 États-nations quand son gouvernement ne sait pas résister aux exigences de la CGT cheminot ? Comment imaginer faire l'unité d'un vieux et grand continent quand à 15 km de l'Élysée, des quartiers vivent en sécession ? Comment promettre que l'on va sortir de l'Europe compliquée quand leur République du CERFA décourage tous les jours les esprits les plus entreprenants ? Comment penser que l'on pourra influer sur des choses infiniment grandes, Dimitri ? Quand on est impuissant sur l'infiniment petit.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro. Dette, déficit, la France menacée de dégradation par les agences Fitch et Moody's. Vous parliez de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Il en sera question d'ailleurs dans le journal de 8h de cette question de la dette publique qui est plus une affaire politique qu'économique. On va voir ça. Merci beaucoup Vincent. Bon week-end à lundi.
Bon week-end à lundi.
Il est 7h56 sur Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le 26 avril. Et le 26 avril 1989, les Japonais découvrent une nouveauté à télévision. Attention, blind test, Dimitri. Est-ce que vous reconnaissez ça ?
Dragon Ball, non ? Bizarre.
Et le 26 avril 1989, vous êtes incollable. On voit que vous avez passé du temps devant la télé, hein, enfant.
Ah oui, la culture avant tout, bien sûr.
Bah, bien sûr. Le 26 avril 1989, la suite de Dragon Ball crée l'événement avec Son Goku, Son Gohan. C'était Dragon Ball Z qui arrivait et c'était il y a déjà 35 ans.
Ouais, et ça dure toujours. Nous fêtons ce jour bienheureuse. Aldo Brandesca, de son nom complet, veuve à 30 ans. On est au 14e siècle. Alda refuse de se remarier. Elle se consacre aux malades de l'hôpital de Sienne jusqu'à sa mort. Bon réveil avec Europe 1 dans un instant. Reportage choc sur le campus de l'Université de Los Angeles, occupé par des étudiants qui ne font plus vraiment la distinction entre la cause palestinienne et l'antisémitisme. Nous rejoindrons la correspondante d'Europe 1, Aviva Fried. Dans un quart d'heure, c'est Catherine Vautrin, la ministre du Travail, qui est l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews.
7h, 9h. Europe 1 Matin.
Carrefour.
Quand vous me dites la 1664 est moelleuse, complexe, avec des notes florales et une fine amertume, oh, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 28 bières blondes 1664 de 25 centilitres est à 12,88€ seulement au lieu de 18,40€. Et c'est jusqu'à lundi chez Carrefour et Carrefour Market.
Carrefour, soit 1,84€ le litre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Ce vendredi, jackpot Euromillion de près de 150 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Yeah, yeah, wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4€, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4€, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule glouglou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Burger King.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,99€.
Les fraises rondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,99€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Toi ramène ta fraise, t'es mal embarqué.
En barquette, patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Bientôt 8h sur Europe 1, Anissa Dadi, le temps. Nous avons des averses, nous avons des orages, des nuages. Tout ça se partage le ciel ce vendredi.
Quel cocktail, effectivement. Un ciel très perturbé, un ciel menaçant, bien souvent gris sur l'ensemble des régions. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas des éclaircies, notamment ce matin, entre la Charente, pas du tout, entre Charleville-Mézières, donc les Ardennes et le centre Val-de-Loire, en passant par la région parisienne. Là, ce matin, il y a des éclaircies, mais partout ailleurs, c'est vrai que c'est très couvert. Des éclaircies aussi sur les Pyrénées. Attention donc au risque d'orage aujourd'hui entre le Languedoc et le Grand Est. En passant par la vallée du Rhône, on a des pluies fréquentes et des orages qui éclatent entre les Cévennes et le Var. Ces orages vont se multiplier cet après-midi, se généraliser sur l'ensemble de la moitié sud et remonter même jusqu'au Poitou-Charentes et à la Basse-Normandie. C'est une journée agitée, c'est une journée grise.